plume sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Lucette Simon-Boulanger pour trois de ses ouvrages, Dédicace suivie de la petite fille, Trois petits tours et puis s'en vont, et Au bois joli, tous les trois publiés en auto-édition. J'accueille également Benoît Fourchard pour son recueil de nouvelles Anamorphose et Pas de côté, publié aux éditions de La Lanterne. Et avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Satan bouche à un coin. Bonjour à vous trois et bienvenue. Alors nous allons débuter cette émission avec Lucette Simon-Boulanger et son roman Dédicace qui vient juste de paraître. Alors Lucette, Dédicace voit ressurgir un de tes héros, Silver le Sicaire, mais dans un rôle différent.
Pas vraiment, parce qu'il a toujours été écrivain, mais il est aussi le personnage lui-même d'un des ouvrages qu'il n'écrit pas à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Donc il a été personnage et auteur aussi, écrivain également.
Je ne me souvenais plus qu'il était écrivain, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu.
Si, dans Puzzle, il est, oui, il est l'écrivain, voilà, il est l'auteur. Mm-hmm.
Alors, vous racontez malicieusement les affres de l'écrivain qui attend le chaland dans une galerie commerciale. Oui. Alors, vous voulez bien nous lire une partie de votre livre?
Je ne peux pas faire autrement. Alors, page 38, hein, c'est ça?
Oui.
Sagaze, monsieur le Sicaire, le jeune homme qui l'a accueilli, Gaspard, sur son badge. Oui, Sagaze, vous voulez un café? Ah, cette fois, je veux bien, merci. Un espresso? Si vous avez, il a. Sinon, il ne le proposerait pas. Les mots inutiles, mais si utiles. La fonction fatigue du langage, selon Jacobson, non? Il vérifie sur son téléphone, oui, c'est ça. D'après Wikipédia, son objet est d'établir ou de prolonger la communication entre le locuteur et le destinataire sans servir à communiquer un message. Il se redresse. Ah. Il a encore de beaux restes de ses études à la Sorbonne. Et qu'il n'oublie pas d'ailleurs de signaler, mine de rien, à ses acheteurs quand il évoque son parcours, afin qu'on ne prenne pas pour un pignouf un culte. Puisqu'à vrai dire, soyons honnêtes, il n'a pas pignon sur rue, le pignouf. Quand quelqu'un s'arrête devant son affiche et lui dit en s'excusant presque « je ne vous connais pas », il réplique que lui non plus, il ne le connaît pas, et que c'est l'occasion d'une rencontre, d'un temps d'échange, ou plutôt, il ferait mieux d'être franc, d'un temps de vente, car il est là pour ça, pour vendre, pour remplir son escarcelle et faire un retour sur investissement. Il n'a pas l'hypocrisie de certains qui prétendent se contenter d'un contact enrichissant avec leur lecteur, à moins qu'il ne faille considérer le mot « enrichissement » dans un sens pécuniaire. Il rêve. Ne plus être obligé d'attirer par des courbettes et des simagrées humiliantes. Jeter un œil sans surprise à la queue formée par ses lecteurs, canalisée entre deux parières, serrant son livre contre leur poitrine, ému de le rencontrer, de voir de près sa chair et ses os, signé à la chaîne d'un stylo blasé avec un sourire figé. Ah, merci. Attention, il est bien chaud. Gaspard vient de lui apporter son café.
Merci Lucette. Alors ça sent du vécu, ça, non?
Si c'est du vécu.
Oui.
Oui, c'est du vécu. Enfin, c'est-à-dire qu'à la suite d'un certain nombre de dédicaces que j'ai pu faire, aussi bien dans les salons que dans les hypermarchés, et là ça se passe effectivement dans un hypermarché, j'ai retenu un certain nombre de constantes. Il y a toujours les mêmes catégories de personnes que l'on rencontre. Et c'est ces types de personnes que j'ai voulu évoquer dans les réactions que ça peut provoquer, de manière plus ou moins amusante, ça agace aussi quelquefois. Mm-hmm. Donc c'est une sorte de condensé de tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de ces dédicaces, oui.
Mm. Ça vous rappelle quelque chose, tous les deux, là?
Ah oui, forcément un petit peu.
Forcément, hein.
C'est toujours un petit peu la même chose, en fait. Hein.
Oui, ouais. C'est vrai. Mm. Alors, Silver est un homme un peu iconoclaste. In petto, il se permet des réflexions qui ne sont plus considérées comme politiquement correctes actuellement.
Oui, mais il les attribue aux autres, en fait.
Bien sûr.
Ce ne sont pas les siennes, mais il se permet de le dire, justement, peut-être pour les juger au deuxième niveau.
Oui, bien sûr. Ça vous amuse?
Pardon?
Ça vous amuse?
De les signaler?
Oui,
pour les critiquer, oui.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, Silver le Sicaire est l'auteur de La Petite Fille aussi. Parlez-nous de cette petite fille.
Alors, cette petite fille, c'est moi, finalement, tout le monde l'a deviné.
Oui.
c'est moi, parce que bon, je retourne très très souvent, et peut-être plus je vieillis, dans mon enfance, C'est le noyau de la personnalité, mais on ne va pas faire de... Mais et cette petite fille, je ne l'ai jamais oubliée. Je vois ce qu'elle est devenue, évidemment. Mmh. Et puis, elle est doublée, même triplée, en fait, dans le récit.
Oui. Hein,
par la personne qui vient, par la personne qu'elle est dans l'histoire et par la personne aussi qu'elle évoque dans ses propos.
C'est un voyage un peu onirique dans votre enfance.
Tout à fait. Mais... onirique, mais en même temps c'est la réalité, hein. C'est tout à fait la réalité, dans la mesure où j'ai voulu, dans ce petit texte, rassembler des lieux que j'ai constamment retrouvés tout au long de ma vie jusqu'à présent. Un village, avec une place où il y a une fontaine, un bois, des canaux, des plans d'eau, etc. Et j'ai été forcément sensibilisée à ces lieux à chaque instant de ma vie, et c'est cela que j'ai voulu évoquer, et à chaque fois il me rappelle... quelque chose que j'ai déjà connu, et peut-être que je rencontrerai encore, je le souhaite. Et j'ai l'impression, comme Sylvère Le Sicker le dit, qu'il y a une sorte de centre et que je trace des cercles autour en passant toujours sur les mêmes endroits.
Mm-hmm. Et ce sera votre seule biographie, enfin en partie.
Ça fait un peu autobiographique.
Oui, mais c'est votre seul roman qui parle
non,
de vous.
Non, parce que dans Puzzle,
ça.
Je raconte
un
ça
petit peu aussi.
Et puis finalement, dans Dédicace, Sylvère Le Sicker évoque dans son autobiographie mensongère la même chose, en fait.
La même chose, oui, c'est ça. Alors, votre second roman, Trois petits tours, et puis s'en vont, parle de Léon, sa vie, son œuvre. Raconte-nous.
Alors, Léon. Il est antérieur à celui-ci,
Oui.
Mais on va dire que Léon, c'est selon le titre que Sylvère Le Sicker donne à l'un de ses ouvrages inventés, bien entendu, c'est une autobiographie mensongère. Léon, il est né après la Seconde Guerre mondiale, et donc il va traverser toutes les décennies que personnellement j'ai connues, et jusqu'à maintenant, bien entendu. Et j'ai mêlé dans son histoire tout ce que j'ai vécu, vu, entendu, notamment aussi de mes parents ou de mes grands-parents.
D'accord.
Donc, tout est vrai et tout est faux.
Oui.
Mmh. C'est une sorte de réalité supérieure, en quelque
D'accord.
sorte.
Hein.
Alors, bien sûr, il y a des passages où ça relève du fantasme.
Ben oui.
Ça va de soi. Oui. Mais c'est pas faux du tout non plus.
D'accord.
Alors bien sûr, ça se focalise sur l'enfance,
oui.
Une grosse partie qui est focalisée sur l'enfance, toujours pour les mêmes raisons.
Mm-hmm. Mais Léon, il était plutôt mal parti dans la vie, dès la naissance.
Oui, bien sûr, il était mal parti dans la vie, mais il s'en est bien sorti finalement.
Bah, bien sûr. Hein,
et à un moment donné, il fait comme Thoreau, l'auteur de Walden, il se réfugie dans une cahute dans les bois. Après, il vit dans le sud, il se lance dans une ONG en Ukraine, enfin voilà.
Oui. Mais en même temps, il a rencontré il arrive à se construire d'une façon harmonieuse parce qu'il a rencontré des gens qui l'ont aidé, qui l'ont beaucoup soutenu.
Oui, qui lui a servi de père,
d'autre
de mère, en quelque sorte. Et puis,
la comtesse.
Pardon ?
Et puis la comtesse.
Oui, voilà. La comtesse. Alors la comtesse, elle existe vraiment, cette comtesse. Hein. C'est la comtesse du village de mes parents, le village initial, en quelque sorte. Ce village où mes parents étaient instituteurs, il y avait la mairesse qui était la comtesse de Bourbon, descendante des Bourbons d'Espagne. Et cette comtesse m'a beaucoup marquée parce qu'elle recevait mon père, qui était le secrétaire de mairie, instituteur en même temps. Elle le recevait dans son lit et d'où s'échappaient des liasses de billets de banque. C'était dans la région parisienne, donc elle allait à Pontoise, elle déchargeait elle-même les productions de sa ferme. Alors, moi, ça m'avait fascinée, cette comtesse. Donc elle est présente en moi. Et j'ai eu un contact avec le maire de ce village. Et c'est toujours un comte, alors je ne sais pas s'il est descendant de la comtesse, qui est le maire là-bas. Et c'est un village qui est devenu un village fantôme. On tourne des films maintenant.
Ah, d'accord.
Alors, il m'a invité à venir parce que j'ai envoyé les livres et ça ne lui avait plu.
Voilà. Et cette fameuse comtesse qui a existé, elle faisait effectivement partie d'un réseau de résistance ?
Je n'ose pas dire, mais je crois que c'est l'inverse. Faites pas dire ce que je veux pas dire parce que c'est. Mais je pense qu'elle avait plutôt des accointances.
D'accord.
J'en suis pas sûre, hein, je peux pas...
Oui, oui, on va pas...
En tout cas, non, le réseau de résistance, non, c'est complètement inventé.
Ah, c'est complètement inventé.
Complètement
oui.
inventé.
Oui.
Sauf que c'est un village où il y avait des réfugiés italiens.
Oui.
Et qui étaient caillassés par les enfants.
Mm-hmm.
Et ça aussi, ça m'a marqué. Après, dans ce petit village, il y avait des choses qui se passaient, finalement.
Oui, bah oui, la campagne...
Avec la comtesse d'un côté, ces ouvriers agricoles... dont certains devaient être plus que des simples ouvriers
oui.
agricoles. Et puis ces Italiens qu'elle avait fait venir, certainement. Ça, moi, je ne peux pas le dire. Hein. On est parti de là, j'avais 8 ans.
Ah voilà. Oui, d'accord. Et il y a la fameuse Léonie.
Pardon ?
Il y a la fameuse Léonie.
Alors, Léonie c'est la génération d'avant.
Mmh.
C'est-à-dire, elle est née donc après la Première Guerre mondiale. Et on va dire que c'est l'ensemble de trois personnes. Moi, je ne suis pas née à ce moment-là quand même. et puis, ma mère et ma belle-mère.
D'accord.
Qui ont vécu l'exode, qui ont vécu... l'autre venait d'Italie, donc ils avaient fui un certain nombre de choses en Italie, pardon. Donc ils avaient fui un certain nombre de choses en Italie. Et donc, c'est toutes ces personnes-là, j'ai rassemblé en une ou deux personnes, quoi, mm-hmm. dans l'histoire.
D'accord. Alors donc, on a un peu de mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Vous aimez bien...
Il n'y a que moi qui sais.
Oui, vous aimez bien ça.
c'est important, il n'y a que moi qui sais. Sache, pardon.
Alors, le titre « Trois petits tours et puis s'en vont » rappelle la chanson que l'on fredonne aux bébés, les marionnettes.
Oui. Oui.
Alors, le titre trompeur, parce que même si tu écris des livres pour les enfants, ce récit est plutôt destiné aux adultes.
Ah oui, c'est un livre pour les adultes, évidemment.
C'est ça, hein.
Oui. Complètement.
Alors, Au bois joli, par contre, est un conte pour enfants, un peu particulier, car il fait référence à un patrimoine immatériel, raconte-nous.
Oui, celui des vieilles chansons françaises.
Oui.
Bon, alors, comme j'ai été élevée dans un petit village de la région parisienne, et avec des parents instituteurs, ils nous faisaient beaucoup allusion aux vieilles chansons françaises. On les chantait à l'école, etc. Donc j'en ai gardé un souvenir forcément très grand. Et je les ai chantées à mon tour à mes enfants, puis à mes petits-enfants.
Mmh.
Et par conséquent, je les ai jamais oubliées et elles font partie de moi.
Hein. Ben oui, c'est sûr. Mais alors comment t'es venue l'idée de reprendre ces vieilles chansons françaises et en faire quelque chose de nouveau? Parce que c'est un nouveau conte en fait.
Oui, ben, j'ai pris les personnages, enfin quelques-uns,
oui.
les personnages des chansons... les plus connus peut-être, hein, pas forcément d'ailleurs, et ils deviennent les héros d'une autre histoire,
oui.
tout en conservant quand même la personnalité qui apparaît dans les chansons.
Oui, oui.
Hein. Voilà, c'est comme ça que j'ai conçu la chose.
Oui. Alors ce joli livre est illustré par Malo El Morassi. Mm-hmm. Alors comment es-tu venue à collaborer avec lui?
Bon, alors j'ai plusieurs illustratrices. Mais la précédente me faisait défaut parce qu'elle avait arrêté de faire ça. Donc elle m'a donné une de ses collègues qui le faisait et je suis entrée en contact avec elle et ça très bien, on a très bien collaboré.
Donc Milo est une femme, moi j'avais considéré que c'était...
Non, c'est une jeune femme qui habite en Bretagne, Redon.
Mm. Voilà. T'as cessé ta collaboration parce que t'avais un petit-fils qui avait illustré une fois un de tes contes. T'avais pas un petit-fils qui avait illustré un de tes...
Ah non. Mon petit-fils, il avait eu une... j'avais travaillé avec lui sur l'idée d'une histoire.
D'accord.
Il n'avait pas illustré du tout, non.
Ah d'accord, j'ai cru
non,
que c'était
était
ça.
Petit. Non, non. Il avait collaboré à l'élaboration d'histoires. J'avais voulu lui faire plaisir, on avait fait ensemble quelque chose.
Mm-hmm.
Enfin, c'était surtout moi. Mais il a participé.
Oui. Alors, dans tous tes écrits, on sent bien que tu t'amuses beaucoup avec les mots.
Oui.
Mais ça devient naturellement ou ça demande du travail?
Ça vient naturellement et ça demande du travail.
Ah,
les deux.
D'accord.
Les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, ça peut venir tout de suite, ça peut venir aussi à force de travail parce qu'on a une idée de ce qu'on veut, à quoi on veut aboutir.
Oui.
Mais ça me plaît énormément. Et puis là, par exemple, j'ai deux petites filles avec lesquelles on a fait le club des folles dingues. Et on s'envoie des petits poèmes. C'est-à-dire que tout rime. Enfin, c'est des petits poèmes classiques, quoi. On fait des rimes, hein, c'est pas un poème en prose. Et elles commencent à jouer avec moi, avec les mots. Et c'est très, très amusant.
Oui.
Donc, même dans ma vie quotidienne, je m'amuse à ça, quoi.
Oui, oui.
Voilà.
Et alors, tu écris pour les enfants et pour les adultes.
Oui.
Tu as une préférence?
Aucune.
Aucune?
Ça dépend du moment. Il y a un moment où j'ai envie de m'adresser aux enfants, Souvent, d'ailleurs, les deux projets se font en même temps. Hein.
Oui, oui.
Parce que c'est quand même plus rapide d'écrire ça que d'écrire...
J'imagine bien.
Donc, je peux arriver à mener les deux de front sans trop de problèmes.
D'accord. Ouais. Et là, tu as des projets d'écriture en ce moment, en cours ?
Oui, sinon, je ne pourrais pas vivre. Donc, il faut que je vive, même si c'est bon ou mauvais, peu importe, pour le moment, je fais. Et puis après, je vois si ça donne quelque chose qui me convient ou pas. Mais là, je suis en train d'écrire, effectivement. Et puis, je vais continuer aussi sur le thème des chansons, parce qu'il y en a un deuxième qui vient de paraître, et le troisième,
il
est là pour le moment, mais voilà.
Tu sors combien de livres par an, à peu près ?
Ben, si on veut aller dans les salons, il en faut un par an. Voilà le rythme, hein. Il est un petit peu obligatoire. Donc, en fait, qu'il soit plus gros ou plus de cette taille-là, bon, j'en écris un par an. Puis les albums, ça, je n'ai aucune obligation vis-à-vis d'eux. Donc, je peux en avoir deux en route ou zéro une année. Enfin, c'est... Voilà. Oui.
Alors, j'ai vu que tu publiais toujours en auto-édition. Oui. C'est un choix ?
Alors, c'est un choix parce que j'ai voulu gagner du temps. Et c'est un choix parce que ça m'offre une certaine liberté. Mais je le reconnais honnêtement, si un grand éditeur vient se prosterner à mes pieds, je ne dirais pas non. Hein, mais voilà, c'est...
Oui. Mais de toute façon, ça n'empêchera pas d'aller dans les salons.
Non, absolument.
Que ce soit une petite, ou de l'auto-édition, une petite maison d'édition ou l'auto-édition, on est obligé d'aller se montrer dans les salons.
Oui. Ou dans les hypermarchés.
Oui, c'est ça. Mmh. Mais ce n'est pas désagréable d'être obligé de...
D'aller là,
oui, d'aller se vendre.
Moi, je me suis retrouvée à côté du bac aux brioches, je me suis retrouvée à côté enfin, en général, quand même, plutôt du côté de l'espace culturel, malgré tout. Mmh. Mais ça peut paraître dérangeant, mais moi, je trouve que, curieusement, j'y rencontre énormément de gens, toutes les catégories sociales, tout le monde fait ses courses. Hein.
Oui, bien sûr.
Et je rencontre des profs d'université comme... je ne vais pas parler de manière... je veux dire, de toutes les classes sociales, de tous les statuts professionnels. Donc, pour moi, c'est assez agréable.
Oui, et il y en a quelques-uns qui t'inspirent, des fois, des personnages, des personnes qui sont...
Ben oui, hein.
Celui-là.
Oui. Le livre, c'est à eux que je fais allusion, parce que les dialogues sont faux dans la mesure où, évidemment, je ne peux pas me souvenir de ce que je dis, ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai quand même, parce que c'est à peu près ce que j'ai entendu à plusieurs reprises. Il m'est arrivé des aventures aussi assez incroyables, hein, d'être poursuivie jusque chez moi par ce que je raconte est vrai.
C'est vrai ?
Ah oui, c'est vrai. Il y a une dame qui m'a envoyé des paquets comme ça de lettres, qui est venue jusque chez moi la nuit à faire allumer les lumières pour essayer de me voir, qui voulait me faire son héritière, etc., que j'avais rencontré dans un salon, qui n'avait même pas lu un de mes livres.
Ah d'accord.
Mais elle avait regardé, hein, bien sûr, quand même, il ne faut pas exagérer. Oui. Mais voilà, j'ai rencontré des gens absolument...
incroyables.
Surprenants. Il y a des gens qui s'assoient devant moi avec une chaise, qui s'installent, et puis qui ne partent plus. Bon, alors je suis de nature assez courtoise, donc je ne sais pas comment me débarrasser de la personne en question. Et une fois, j'avais un docteur qui était à côté de moi, qui présentait je ne sais plus quel livre. Et son livre s'intitulait « Au secours, docteur ». Alors, je m'empressais de dire « Au secours, docteur ». Et à ce moment-là, lui-même a trouvé la parade et on a réussi à évincer la personne. Mais c'est plein d'histoires comme ça, quoi. Des séances de dédicace.
Alors, nous allons revenir après « J'ai vu le loup, le renard, le lièvre
oui. »
par les têtes de chien. Une interprétation décalée de la célèbre comptine.
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, 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 j'ai vu le loup, le renard, le lièv
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Lucette Simon-Boulanger, venue nous présenter trois de ses ouvrages, Dédicace suivie de la petite fille, Trois petits tours et puis s'en vont, et Au bois joli, tous les trois publiés en auto-édition. Et avec Benoît Fourchard, venu lui pour son recueil de nouvelles, Anamorphose et Pas de côté, publié aux éditions de La Lanterne. Alors avant d'aborder Anamorphose et Pas de côté, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle, ça embouche un groin, tout un programme.
Oui, ça t'embouche un groin. Sauvegarder un cochon. Mon fils voulait sauvegarder un cochon en l'adoptant, en le parrainant. Un cochon promis à l'abattoir. Ah, noble sentiment hein, que de sauver son prochain, mais un cochon quand même, pensais-je. Je sais comment l'histoire se termine d'habitude avec son chat ou son poisson rouge, son cochon d'Inde, ou même sa souris qui m'avait bouffé tous les fils électriques de ma chaîne stéréo. Non. Ah, pitié, pas un cochon. Je suis sûr que c'est moi qui vais le récupérer au final. Il m'avait promis la main sur le cœur. « Non, ne t'inquiète pas, mon petit papa. Non stress, je gère. Et tiens, d'ailleurs, je vais le faire garder par une association qui s'en occupera, qui s'appelle « Ça t'embouche un groin ». C'est vrai que c'était rigolo, rien que le nom de la sauce, mais bon, un cochon, ça porte quand même son nom, un cochon. Même si autrefois, ma mère me disait souvent « J'étais un de ces cochons qui se lavent pas les mains avant de manger aujourd'hui. Ah, je voudrais pas lui donner encore du groin à moudre. Non, fiston, il n'en est pas question. Mais papa, je me sens si seul depuis que maman est partie, je déprime. Quelque part, ça me ferait du bien. Non et non. Moi, John Bulit, moi vivant, tu n'auras jamais de cochon. » Un mois plus tard, le cochon était là. L'association Déficit avait dû fermer ses portes et chaque propriétaire bienfaiteur récupérait son animal. Mon fils faisant de brillantes études à Paris, mais dans un petit studio au 6e sans ascenseur et dans le 15e arrondissement, alors que moi évidemment, j'étais en province, hein, dans une grande maison, a-t-il dit. Et il a poursuivi, « Non, mais tu comprends, papounet, blablabla, hein, tu comprends, hein, tu es d'accord avec moi, hein, blablabla. » Oui, c'est ça, en résumé, assura-t-il, « Chez toi, papounet, il sera vraiment, mais vraiment mieux. » J'en étais sûr, c'est moi qui allais le récupérer. « Oh, papa, non et non. » Et il a un nom, au moins, cet animal ? Ah oui, c'est Doudou. Doudou, et pourquoi pas groin-groin pendant qu'on y est. Ah oui, groin-groin, t'as raison, papounet, c'est beaucoup mieux. Allez, va pour groin-groin. Oh, au secours, pitié, je me retrouve avec groin-groin et en cochon, j'y connais rien. T'éclaté, papounet, ne t'inquiète pas. Regarde, mon papounet chéri, je t'ai amené justement un bouquin qui va bien t'aider. Alors, ça s'appelle « Les cochons pour les nuls ». Avec ça, ce sera facile hein, pour toi. C'est un beau cadeau, hein, mon papounet. Avec toi et ton cochon, en comparaison, les diplés d'Égypte, c'est de la rigolade, fiston. Bon, je vais y aller, papa, hein, que j'ai encore du boulot. Je suis pas en retraite, comme toi. Alors, j'ai mis Gringoin dans le garage. Hein. T'oublieras pas de m'envoyer des photos de lui. Hein. Quand tu le nourris, quand tu le brosses, quand tu le laves. Tiens, et aussi quand il se roule dans la paille. Et puis, oui. Allez, disparaît. Des photos, oui, je t'en enverrai quand je le découperai en tranches. Compte sur moi. Je t'en enverrai des photos de jambon, des photos de coin de dollar, de l'usine de chez Herta, oui. Plein de photos de ton groin-groin. Allez, disparaît. Laisse-moi seul face à mon destin. Et le voilà parti, me laissant avec mon animal de compagnie de 132 kilos. Je descends les marches de l'escalier, conduisant mon garage avec beaucoup de prudence. Ça y est, je pousse la porte, je suis face à la bête. Il émet des sons tonitruants en me voyant. Oh, peut-être une marque d'affection ou de reconnaissance. Bon, après tout, hein, les cochons ont un cœur comme nous autres, les humains, non? Ils ont droit au respect également, hein? Bon, mon cher Groin-Groin, bonjour. Je m'appelle John. John Bulit, et je suis maintenant ton papa. Nous allons manger ensemble pour la première fois. T'es-tu bien lavé les papates avant de te mettre à table, Groingroin ? Oui ? Bon, parfait. Oh, mais dis donc, c'était drôlement dodu, toi, hein ? Mon fils m'a dit que tu pesais 132 kilos. Ah, ça c'est amusant, c'est exactement le double de mon poids. Je me demande d'ailleurs ce que je vais te donner à manger. Ah mince, voilà que j'ai fait tomber mes lunettes à tes pieds. Ne bouge pas, Groingroin, je vais les ramasser. À la semaine suivante, attiré par un éventuel butin, Kevin Schmidt força la porte du garage, muni de son pied de biche en pleine nuit. Celle-ci s'ouvrit sans effort et put se glisser à l'intérieur, surpris de trouver un énorme cochon. Il trébucha devant lui et laissa choir son pied de biche, se pencha pour le ramasser. Un mois après, ce fut le releveur de compteur d'électricité qui, ne recevant pas d'appel à ses coups de sonnette, décida de frapper lui aussi à la porte du garage entrouvert et de s'y introduire. Il se retrouva nez à nez, ou plutôt groin à nez avec l'animal, et de stupeur, sa casquette tomba à terre et, pas de chance, en voulant la ramasser, il glissa sur le sol luisant des déjections du cochon. Quelques semaines plus tard, la presse locale rapporta qu'une perquisition aurait été effectuée par la police au domicile d'un certain John Bullitt, dont la disparition avait été signalée par des proches. Dans le domicile du disparu, l'inspecteur Duroc n'aurait rien trouvé d'anormal. Pas de traces de violence, de sang. Ah, excepté pourtant la présence dans le garage d'un énorme cochon de près de 400 kilos. Seul, mais apparemment très bien nourri. Et à ses pieds, le policier découvrit une toute petite paire de lunettes intactes, une casquette, un pied de biche et quelques menus morceaux d'os. Manger ou être mangé, la vie peut parfois être ainsi résumée.
Merci John. Et nous allons maintenant déjeuner en paix avec Stéphane Echard.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine.
Plume sur RCN, Mona.
Alors Benoît, Anamorphose et Pas de côté est une réédition de trois de tes recueils. Alors pourquoi les rassembler en un seul ouvrage ?
Alors ces trois recueils ont été publiés par les éditions La Dragonne à Nancy, entre 2005 et 2013 à peu près. Et il se trouve que les éditions La Dragonne ont arrêté leur activité.
D'accord.
Et donc ces ouvrages étaient épuisés. Donc depuis l'année dernière, je travaille avec une éditrice de Lyon, là, qui La Lanterne, donc qui a publié Indéfectible, un premier recueil de nouvelles que j'ai fait avec elle, suite à d'autres chez d'autres éditeurs. Et quand elle a, j'en ai parlé avec elle simplement, elle a dit ça serait une bonne idée de rééditer ces trois recueils. Il faut croire qu'ils lui ont plu. Et on a décidé de les rassembler en un seul ouvrage, donc séparé en trois parties.
Oui.
Donc chacune étant l'ouvrage initial. Qui était publié par la Dragonne.
Ça n'a pas été remanié ?
Si. Il y a eu pas mal de réécritures, de petites retouches. Il y a trois textes qui ont été abandonnés, délibérément, enfin pour différentes raisons. Il y en a un qui s'appelait « Les baskets du Père Noël » qui est devenu un livre jeunesse.
Oui.
Donc, qui est le début de ce livre jeunesse. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas la peine de le remettre sous une autre forme.
Bien sûr.
Et puis, un autre aussi que je trouvais plus très opportun aujourd'hui. Et puis tous les autres textes ont été ripollinés, on va dire, en fonction un petit peu certaines choses, des expressions ou des passages qui ne me convenaient plus. Puis c'est aussi l'occasion, quand il y a une réédition comme ça, de replonger dans toutes ces histoires et de les revoir, corriger.
Oui. Et c'est amusant de relire ces anciennes nouvelles, parce que la perception a changé, je suppose, après.
Oui, alors enfin, il se trouve que pour un certain nombre, elles ont été soit adaptées au théâtre, soit lues en public, etc. Donc c'est des nouvelles que j'ai pas redécouvert complètement, quoi.
D'accord.
Il y en a une par exemple qui s'appelle La méthode Maxwell, qui est publiée quasiment telle qu'elle était. Enfin, il y a quelques toutes petites choses qui ont changé, mais qui a fait l'objet d'un spectacle que moi je jouais en tant que comédien et qui a été joué une centaine de fois. Donc voilà, il y a un certain nombre de ces nouvelles quand même que je connaissais encore très bien. D'autres que j'ai un petit peu redécouvert. Et en fait, c'est de toute façon un travail, le travail de réécriture, quel que soit l'ouvrage. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie bien quand l'éditeur, entre autres, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire pour un prochain recueil, un prochain roman jeunesse. On replonge dans l'histoire à chaque fois, on la redéveloppe, selon un petit peu un avis extérieur, un œil extérieur. Et ça, je trouve ça assez passionnant dans le travail d'écriture.
D'accord. Bon, c'est parfait. Alors, le titre est très évocateur. Alors, pour nos auditeurs, tu peux expliquer ce qu'est l'anamorphose en littérature ?
Alors, en littérature, je ne sais pas très bien. Une anamorphose, c'est un déformement d'une image.
Oui.
Donc là, l'idée, c'est un petit peu de parler de métamorphose, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, certaines situations qui paraissent tout à fait normales vrillent un petit peu dans quelque chose qui paraît complètement surnaturel, saugrenu, etc. Mm-hmm. C'est ainsi que dans la première partie, donc qui s'appelle Mu, donc là, on a des personnages qui se transforment sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, on est à la limite toujours, on est sur une lisière entre du réalisme et du fantastique, en quelque sorte. Il y a une des nouvelles, par exemple, qui s'appelle Comme sur des roulettes, qui est l'histoire d'une jeune fille handicapée qui est sur un fauteuil roulant et qui ça, c'est une histoire presque vraie. Enfin, c'est référencé vraiment à quelqu'un que je connais, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs à Nancy, qui a la maladie des os de verre, donc il doit peser à peu près 20 kilos, et qui se trouve là, elle a un rendez-vous amoureux et il faut qu'elle traverse toute la ville. Et évidemment, il y a des voitures garées sur le trottoir, etc. Donc, elle décide, après avoir rayé une voiture un peu méchamment, elle décide de descendre sur la chaussée, et de là, elle bloque absolument toute la ville. Oui. Arrivent les députés, les ministres, les flics, etc. Là, on est dans une histoire totalement invraisemblable, mais en même temps qui possède un fond de réalité, quoi. Mmh. Et puis, dans chacune des parties du recueil, donc ça, c'est la première partie qui correspondait au recueil qui s'appelait à l'époque « La viande rouge rend très habile », voilà, qui s'appelle maintenant Mu. La deuxième partie s'appelait Clémence et l'acteur nu, maintenant s'appelle Illusion réalité. Donc là, on est dans une suite, en quelque sorte, de nouvelles qui s'enchassent les unes dans les autres.
Oui. Avec un fil rouge, la fête foraine.
Avec une sorte de fil rouge qui est la fête foraine. Donc chacun des personnages, à un moment, se retrouve dans cette fête foraine. Il y a des personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux d'une autre histoire. Et toutes les histoires se conjuguent à la fin dans une sorte de bouquet final où on retrouve tous les personnages.
Oui, oui.
Quant à la troisième partie, donc qui s'appelle Excursus, qui portait déjà ce nom d'Excursus à l'époque où c'était publié par la Dragonne. Mmh. Excursus, ça veut dire pas de côté, justement, ou digression, etc. Et là, dans toutes les nouvelles, porte l'idée en un clin d'œil, il peut se dérouler toute une vie. C'est-à-dire, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et on a un souvenir, et ça peut développer toute une histoire. C'est le cas un petit peu, à peu près, de toutes ces histoires-là.
Mmh. Alors, tes personnages sont souvent confrontés à des situations insolites. Hein. Alors, comment tu crées ces personnages et ces situations? Tu pars de quelque chose que t'as vu, que t'as...
C'est très variable. Certaines partent... avec quelque chose qui m'est personnel, mmh. Mais la plupart du temps c'est de la pure invention, on est dans la fiction complète. Alors il y a beaucoup de choses. Enfin, j'ai des petits carnets, je note, tiens quelle situation ou quel personnage croisé pourrait faire l'objet d'une nouvelle ou d'un roman jeunesse ou d'un scénario ou d'une pièce de théâtre, parce que j'écris pas mal de choses très différentes.
Ben oui.
Et là évidemment pour les nouvelles l'intérêt c'est que ça peut être des choses très courtes, évidemment ça.
Oui,
nécessite d'être des choses très courtes, comme l'histoire du cochon qu'on vient d'entendre, on a des personnages qui se développent, mais il faut qu'ils soient posés en quelques mots ou quelques phrases, quoi. Ça, donc, ça m'intéresse bien, justement, ça me permet de développer plusieurs thèmes très, très différents. Mmh. Dans chacun des recueils de nouvelles que j'ai fait, d'ailleurs, chacune des nouvelles est à la volonté d'être, singulière et ne pas s'efforce de ne pas copier la voisine, enfin, ou d'être à chaque fois dans un univers très, très différent. Quoi. Mmh. C'est la nouvelle qui permet ça.
Oui, oui, parce qu'il faut une chute. C'est pas mal aussi, la petite chute, en général.
Il faut une chute, mais pas forcément. Il y a des nouvelles qui n'ont pas forcément une chute, enfin, avec un twist final.
Bien sûr.
C'est aussi, ça fait partie, évidemment la nouvelle c'est quelque chose que je connais très bien, hein, pour aussi animer un festival de la nouvelle à Nancy, donc
peux donner le nom, hein,
qui s'appelle les 12 000 signes, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, et dans lequel on lit une cinquantaine de textes différents de plein d'auteurs du monde entier, avec certains auteurs présents, etc. Mais ça permet aussi de montrer que la nouvelle est un genre à part entière, quoi. Ce qu'on veut absolument défendre, c'est pas un sous-genre, c'est pas une rampe de lancement pour un roman, ça fait vraiment partie d'une... C'est un genre littéraire qui est pas si simple à écrire.
Bien sûr.
Parce que, autant dans un roman, on peut effectivement développer, faire des digressions très longues, etc., développer des personnages. Là, dans une nouvelle, il faut aller à l'essentiel. Quoi.
Mais je trouve qu'il y a effectivement maintenant beaucoup de gens qui écrivent des nouvelles, mais pas trop des nouvelles policières. C'est encore un autre genre, là, parce qu'il faut une chute, là, carrément.
Il y en a eu quand même pas mal, les nouvelles policières ou fantastiques.
Mais pas récemment aussi.
C'est vrai, peut-être un peu moins. Les nouvelles sont plus, font partie de la littérature blanche, comme on dit, hein, qui sont pas forcément une littérature de genre, justement. Et la nouvelle permet d'aborder, justement, des thématiques ou des genres très, très, très différents, quoi.
Oui, oui, c'est sûr. Alors, tes nouvelles explorent, souvent les frontières de la réalité et de l'étrange. Alors, qu'est-ce qui te fascine dans ces thèmes? Est-ce qu'il peut arriver?
C'est toute la limite entre le réel et l'imaginaire, justement. Il y a ça, et puis il y a une sorte de fascination aussi pour ce qui est un peu inaccessible quand même. Il y a parmi toutes ces histoires, il y a des histoires qui sont totalement invraisemblables, mais en même temps, mais un petit peu comme dans la littérature fantastique quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est fantastique, on sait que c'est impossible, mais en même temps, on y croit un petit peu. On a peur ou on se retrouve dans des situations... toutes les nouvelles ne sont pas non plus comme ça. Il y a certaines qui sont extrêmement réalistes. Mmh. Mais il y a toujours quelque chose à un moment qui se décale, justement qui dépasse un petit peu la réalité. Ça, je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire.
Mmh. Alors la condition humaine est un thème récurrent dans tes nouvelles. Alors qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans les aspects sombres ou étranges de la nature humaine?
C'est qu'elle est multiple, justement, la nature humaine. C'est vrai qu'on peut retrouver tout un tas. Et puis alors surtout, c'est ça que je précisais aussi, c'est que même les personnages les plus négatifs, il y en a toujours, notamment, je pense aussi au précédent recueil qui s'appelait Indéfectible, où il y a des personnages qui sont vraiment, qui sont vraiment monstrueux. Mais en même temps, il y a toujours chez les pires êtres humains, on va dire entre guillemets, il faut toujours leur donner une petite chance quand même, peut-être de rédemption. Donc, ce qui m'intéresse pour répondre à ta question de la nature humaine, c'est que justement, il y a Enfin, chaque être humain est composé de plein de possibilités, quoi. Et ce qu'on peut croire comme ça au départ n'est pas forcément la réalité de ce qu'il est. Et ça, c'est toujours intéressant. Enfin, c'est comme dans la vie, finalement.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, les hommes sont quand même un peu maltraités dans tes nouvelles, je trouve.
Tu trouves, bah, pour une fois que ce sont les hommes qui sont maltraités.
Oui, hein. Oui, bah, justement, je me suis dit bien.
Ben ça c'est comme quoi ça puisque c'est tous les sujets viennent quand même des années 2000 hein.
Oui, oui.
Comme quoi c'était déjà quelque chose qui m'importait, j'imagine.
Oui, oui.
Parce que ça soit aussi pour par la suite dans Indéfectible, donc le recueil qui est sorti en 2024 ou dans les romans ou le roman jeunesse qui s'appelle Ida la Bleue est porté par deux héroïnes.
Oui.
Alors c'est pas du tout une posture hein, et puis puis c'est vrai que j'y pense pas forcément en me disant attention, faut absolument que ça soit des filles. Dans le prochain roman jeunesse que je suis en train de finaliser là, qui sortira au mois de septembre, hein, qui s'appelle Jour de chasse à Florigny, donc ça va parler de la chasse. Le personnage principal est un jeune homme de 14 ans.
D'accord.
Donc cette fois c'est un garçon qui porte l'histoire.
Oui, oui.
Voilà.
C'est
bon,
bien.
Les hommes sont un petit peu maltraités aussi. Enfin, surtout les chasseurs, ils sont pas toujours gentils.
Non, bah c'est sûr. Alors, tu veux bien nous faire la lecture de ta nouvelle intitulée Berthelot, s'il te plaît ?
Avec grand plaisir, donc qui appartient au troisième livre de... Donc, appelé Excursus, justement. Là, on est typiquement dans un... Voilà, de ce qui tout peut se dérouler en quelques secondes.
Voilà, c'est ça.
La petite à la crèche, l'appartement bien rangé, Alain Berthelot boit son café... avant de partir au travail. Dans la grande cuisine récemment rénovée, soins particuliers apportés au choix des matériaux, bois et métal brossé, induction, ergonomie parfaite, il profite de ces quelques instants de calme pour lire les pages économie du Figaro. Berthelot est dans les affaires. Soudain, la sonnette de l'entrée, péremptoire, presque fébrile. À cette heure de la journée, toute visite tombe forcément mal. Comme chaque matin, Berthelot doit trouver son rythme. Émilie organise les débuts de journée sans qu'il ait à se préoccuper de quoi que ce soit et sans lui adresser le moindre reproche. Il lui en est reconnaissant. Ses mauvaises humeurs matinales lui appartiennent. Elles ne sont pas négociables, ne l'ont jamais été. On doit le prendre avec ou bien libérer l'espace. Une chose... qu'Émilie a très bien comprise, à l'inverse de toutes les précédentes, son très jeune âge peut-être. Plus tard dans la journée, Berthelot se révèle exquis, drôle, raffiné, séduisant, ou séducteur, selon les points de vue. Il s'était vaguement promis qu'à 50 ans, il stabiliserait sa vie compliquée et se lèverait toujours de bonne humeur. Mais Berthelot oublie ses promesses avec une telle conviction qu'on peut se demander s'il les a réellement formulées. Berthelot n'est pas du genre à avoir le moindre doute. Donc, cette sonnerie. Pour justifier son empressement, sans prendre le temps de terminer sa lecture, dans la vaste entrée aux boiseries délicates, il enfile sa veste et prend son sac. Une bonne raison pour repousser fermement représentants, témoins de Jéhovah et autres pompiers, vendeurs de calendriers. « Oh, je suis désolé, je suis pressé, vous voyez, je partais, repassez plus tard. » Face à lui, sur le palier, une fille, dans les 30 ans, tenant la main d'un garçonnet d'une dizaine d'années, aux sourcils froncés, son fils, comme une évidence, inscrite dans leurs regards identiques. La fille, mince, pas très grande, pas maquillée, pas très bien coiffé, vêtu bon marché, sans chichi, comme le petit. Un autre jour, peut-être, il se serait demandé comment se débarrasser avec courtoisie de ces personnes probablement nécessiteuses, et il aurait sans doute donné quelque chose, des vêtements un peu usagés, mais pas trop, ou même un petit billet, pourquoi pas. Berthelot a beaucoup de défauts, mais il n'est pas radin. « Bonjour, » dit-elle. Le bonjour simple de quelqu'un qui semble savoir qui il est. Pas un bonjour qui tergiverse. Un bonjour franc, net, suivi d'un silence. Le regard vert, doux et puissant, se plante dans le sien. Et sans le moindre début d'interrogation quant à la présence de si bon matin de ces deux anges sombres sur le seuil de sa porte, son cerveau, soudain fouetté par le réveil brutal de ses hormones, organise la suite immédiate de son existence. Entrez, mademoiselle, je vous en prie. Casez le gosse devant la PlayStation de son propre fils. Thé, café, passez un coup de fil discret au bureau. Je vais avoir un peu de retard, un rendez-vous impromptu. Commencez la réunion sans moi. Et puis, les regards qui chavirent, les doigts qui s'effleurent, la peau qui perle, et l'étreinte, bien sûr, incontournable, impossible à refuser. Ici, même, dans cette entrée, sans pouvoir attendre le confort d'un lit, tel un cheval monté à cru, le plus beau moment de sa vie, forcément. Dans cette fraction de seconde, lui vient même tout l'argumentaire qu'il va présenter dès ce soir à Émilie, la liberté qu'elle va pouvoir reprendre. Oui, je sais, j'avais dit que... Mais que veux-tu? Laisser passer une chance pareille? Non, ça, il ne pourra pas le dire. Pas comme ça. La rassurer, plutôt. Pour la petite, les week-ends avec son demi-frère presque ado et ses demi-sœurs presque adultes. Oui, je m'organiserai. Non, ne pleure pas, Émilie, tu es si jolie. J'étais pas quelqu'un pour toi. On n'était pas de la même génération. Tes copains te l'ont suffisamment fait remarquer. Quant à mes amis, tu sais très bien qu'ils ne l'ont jamais admis non plus. M'accusant implicitement de profiter de ta naïveté, tu te rends compte que j'ai le double de ton âge. Tu retrouveras quelqu'un, j'en suis sûr. Pourtant, je t'assure, à tes côtés, je pensais vraiment enfin avoir trouvé la paix intérieure, vieillir avec toi, tout près de toi. Mais que veux-tu, la vie nous réserve des surprises, on n'y peut rien. Et puis, je veux que tu saches que je ne te laisserai jamais tomber. Tu peux me faire confiance, tu sais. Non, peut-être éviter lui parler de confiance, ce serait malvenu. Bon, il saura arrondir les angles, il a toujours su. La rhétorique est sa spécialité. Il a la journée pour y réfléchir. Peut-être lui laissera-t-il l'appartement. Enfin, ça, il faudra voir. L'urgence, ce sont ses yeux verts qui sont en train de faire basculer sa vie, la fille et son petit, là, devant lui, dans ce silence de quelques secondes où tout est en train de se déterminer. Il parcourt l'histoire, détricote, remonte le temps jusqu'à son copain, Yves Lamidieu, qui cachait sous ce patronyme si doux une dose de cynisme comme il en a rarement trouvé depuis. Lamidieu, le beau gosse du lycée, Berthelot et Lamidieu, duo de choc, conquête, machine de guerre, concours d'odieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'étaient eux-mêmes baptisés, les odieux, Berthelot-Lamidieu, les odieux. Ensemble, ils partageaient un jeu assez stupide, mais très excitant. Ils pariaient sur les filles comme sur des chevaux, se les échangeaient comme des billes, et lorsqu'elles montraient quelques réticences, ils se soutenaient mutuellement. À deux, on est toujours plus fort. À deux, la proie offre moins de résistance. Mais un jour, le jeu a mal tourné. La fille a voulu porter plainte. Les parents ont fini par arranger les choses, et après diverses rumeurs, grossesse, avortement, fugue, tentative de suicide... La fille s'est évaporée. Ils ont tous deux été exclus du lycée et ne se sont jamais revus. Il a souvent pensé à cette fille, avec une once de regret. Pas de remords, non, ça, c'est pas son style. Plutôt le sentiment d'avoir raté quelque chose, ou la frustration de ne jamais avoir connu la fin de l'histoire. Plus tard, Berthelot, tel un chasseur, a continué à aligner ses prises. Et pour ne rien oublier, il s'est mis à consigner leurs noms et leurs singularités dans des carnets, les répertorier, les évaluer, les comparer, tenir une comptabilité méticuleuse de leurs préférences, leurs particularités, la description précise de leurs ébats, leurs émois, leurs refus, leurs larmes et leurs consentements, et tirer toute sa fierté de ce tableau de chasse. Au début, du moins. Puis, quand les enfants sont arrivés, il s'est fait plus discret, affichant une sorte de recul, de mesure, la maturité, disaient certains dans son entourage. D'autres affirmaient plutôt que l'odieux s'était simplement modéré, mais restait tapis dans l'ombre. Dans le silence qui suit le bonjour, sa vie entière défile à toute vitesse, comme un jour d'accident de voiture. Va-et-vient dans le temps, aller-retour entre Lamidieu d'autrefois et Émilie d'aujourd'hui, dont la jeunesse s'expose à son bras comme un trophée. Son passé sulfureux, ses frasques et ses mensonges lui sautent à la figure. Vanité, apparat, dérision. Il va tout recommencer. Avec elle, l'inconnue du palier. Effacer les 30 et quelques années précédentes. Il est vierge. Il chérira ce garçon maussade comme son fils. Lui offrira tout ce que la vie lui a à présent refusé. Et si elle le souhaite, il acceptera même de changer de ville, de travail, de train de vie et d'amis. Il découvrira les choses simples et l'existence sans esbroufe. Un mot lui vient à l'esprit, un mot qu'il découvre, qui lui a toujours été étranger, un mot qui ne lui semble qui ne lui semble plus gros que... Pardon, un mot qui ne lui semble plus un gros mot. Et qu'il apprend, dans cet instant suspendu, à soupeser et peut-être même à apprécier. Repentance. Cette jeune femme aux yeux verts, il l'aimera, vraiment, profondément, à jamais. Il ne peut en être autrement. Il le sait, c'est inscrit. Sa vie vient de basculer. Donc, bonjour, dit-elle, a-t-elle dit. Puis ce silence et ce regard vert intense. Vous êtes bien Alain Berthelot ? Oui, jusqu'à présent. Mais là, je sais, je sens que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Thomas, dit-elle, en s'adressant à l'enfant. Oui, répond le gosse. Un oui renfrogné, un oui qui veut dire « tu me fais chier ». Thomas, s'il te plaît, fais un effort. Un silence. Thomas, dis bonjour à ton grand-père.
Merci Benoît, c'est très drôle. Alors ton écriture mêle humour et mélancolie. Alors c'est difficile de trouver un équilibre entre ces deux équations ?
Bah, faut croire que c'est deux choses qui doivent me préoccuper. En fait, je trouve que par l'humour, alors bon, celle-là, elle est pas hyper drôle non plus, mais enfin.
La suite est drôle.
mais c'est vrai que par l'humour, on peut aussi faire passer des choses qui paraissent un petit peu violentes ou brutales. Et puis la mélancolie, alors ça dépend complètement des histoires, hein, c'est sûr que. Mais j'aime bien mélanger les genres, encore une fois. C'est-à-dire que, ou surprendre un petit peu, ou partir dans un endroit qui n'était pas forcément attendu. Donc, le mélange mélancolie et humour, oui, ça me va bien. Oui.
Ça te va bien? D'accord. Alors, il nous reste très peu de temps. Tu peux nous dire quelques mots de ton futur roman qui va sortir, là?
Alors, il s'agit d'un roman jeunesse qui paraîtra au Seuil, comme les deux précédents, enfin, comme un certain nombre de romans que j'ai fait avec eux, qui s'adressera aux ados à partir de 13-14 ans et qui va donc parler de la chasse. D'accord. Donc, avec un parti pris très net, qui part d'un fait divers tout à fait réel, donc d'un jeune d'une vingtaine d'années qui s'est fait tuer par un chasseur. Dans mon histoire, on ne sait pas si c'est un acte, un accident, un pur accident ou un acte délibéré. Du coup, tout va s'envenimer dans ce village où ça se passe. On ne sait pas exactement où c'est. Ça pourrait être en Bourgogne. Enfin bon. Et tout s'envenime, évidemment. Il y a des pour, des contre, des foires d'empoigne. La presse nationale s'en mêle, les réseaux sociaux, etc. Et tout part de cette idée de, voilà, de cette répartition entre chasseurs et non-chasseurs. Est-ce qu'on, du respect du vivant ou pas? De qui prend la place de qui? Est-ce que c'est les sangliers qui envahissent les champs, ou est-ce que c'est les humains qui sont allés sur le terrain des sangliers? Enfin bref, toutes ces questions sont posées dans ce roman, qui, là aussi, se veut... C'est comme un suspense, en fait, ce petit garçon qui s'appelle Léon, justement, qui a 14 ans, donc, et c'est un peu lui qui va mener l'enquête en parallèle, parce qu'il connaît bien les rouages du village, il connaît bien celui qui est soupçonné d'avoir tué son frère, et donc c'est lui qui va un peu mener l'histoire. Donc c'est un peu construit comme un polar, donc avec des rebondissements et tout un tas d'aventures qui vont se passer. Comme ça, c'est quand même un roman jeunesse.
Merci Benoît.
Avec plaisir.
Alors merci à Lucette Simon-Boulanger d'être venue nous présenter trois de ses ouvrages, Dédicace suivie de la petite fille, Trois petits tours et puis s'en vont, et Au bois joli, tous les trois publiés en auto-édition. Merci à Benoît Fourchard d'être venu nous parler de son recueil de nouvelles Anamorphose et Pas de côté, publié aux éditions de La Lanterne. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle, Ça t'embouche un groin. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des Plumes.